Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
8h31 sur Bretagne 5.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique de la matinale en ce mardi est Quentin Lefèvre. Il est responsable adjoint des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine. Il est venu jusqu'à nous dans les studios de Bretagne 5 Matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci à vous de m'avoir invité.
Alors on va parler, disais-je, de politique. Et évidemment, en ce moment, la droite, en tout cas LR, les Républicains, eh bien, a vécu une séquence électorale. Ce sera donc l'un des deux, Bruno Retailleau ou Éric Ciotti, qui sera élu président de LR dimanche, puisqu'il y aura un deuxième tour. Je ne vais pas forcément vous dire pour qui vous allez voter, hein, mais est-ce que ce sont deux visions de la droite très différentes ou est-ce qu'il y a quand même des convergences?
Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter Aurélien Pradier pour son score honorable de 22%. Il a apporté sur la table des sujets tels que le handicap ou les violences faites aux femmes. Il a une vision qui est intéressante, qui suffit pas pour être président de parti parce que sa ligne n'est pas claire sur l'Europe, sur la question sociale, mais je tenais quand même à le féliciter là-dessus. Entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti, on a deux droites qui peuvent sembler proches d'un prime abord. Ils sont tous les deux libéraux, tous les deux relativement conservateurs, fermes sur l'immigration. Maintenant, je pense que c'est quand même deux projets de société qui sont extrêmement différents si on y regarde de plus près, parce que on a sur la question de l'Union européenne, on a quand même Bruno Retailleau qui a un passif, qui a voté contre le traité de Maastricht, qui a fait campagne contre l'euro, qui a fait campagne contre au référendum de 2005 et qui a voté non au traité de Lisbonne. Là où Éric Ciotti, contre l'avis des Français, contre l'avis du référendum, a voté oui avec la majorité sarkozyste de l'époque. Donc là, il y a une vraie ligne de rupture. Sur d'autres sujets, c'est peut-être moins important, mais là où Éric Ciotti va être d'une droite plus néolibérale, un peu mondialiste, avec Bruno Retailleau, on revient à un libéralisme plus classique, qui est peut-être un peu plus rural, un peu, voilà. Ce sont deux générations différentes, deux visions de faire la politique qui sont quand même différentes, malgré des points communs.
Alors, c'est aussi une forme de refondation pour la droite. On verra le verdict des urnes dimanche. Mais c'est aussi une forme de refondation pour la droite qui revient de loin. On a vu avec ce rouleau compresseur qui a été l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et sa réélection. Ça ne s'est pas arrangé, si vous me permettez le terme. Les partis traditionnels vraiment mis à mal, on pourrait en dire autant du PS, par exemple. La droite doit exister aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce paysage, reformé, formé différemment que ce que l'on avait jadis, des partis très marqués. Aujourd'hui, on a une gauche plus réelle à l'Assemblée nationale. On a le RN qui a quand même réuni 89 députés. Est-il facile pour la droite aujourd'hui d'exister dans ce paysage, pour LR d'exister dans ce paysage politique?
Alors, visiblement non, parce qu'on a perdu 3 élections présidentielles d'affilée, 2 on n'était pas au second tour, nos députés sont de moins en moins nombreux à chaque législature. Maintenant, c'est un peu trop facile d'accuser le rouleau compresseur de la majorité, le Rassemblement national. On paye nos erreurs. Nos erreurs quand on a été aux manettes. Quand Nicolas Sarkozy fait voter le traité de Lisbonne contre l'avis des Français, c'est des erreurs qu'on paye cash. Quand il va supprimer des effectifs de police, notamment la police de proximité, et qu'il ne fait donc rien pour contrôler l'immigration et l'insécurité, c'est des erreurs qu'on paye cash. Quand il avait des slogans qui se rapprochaient d'une droite sociale, travailler plus pour gagner plus, où on le sentait proche des préoccupations des Français pendant sa campagne, et que finalement, même si oui, il y a eu la crise, mais ça a été quand même la poursuite de politiques néolibérales imposées pour certaines par l'Union européenne. Donc, on paye nos erreurs, on paye une ligne qui n'est tout simplement pas gaulliste. Je ne retrouve pas le gaullisme chez François Fillon en 2017, je ne le retrouve pas chez Valérie Pécresse en 2022. On paye le fait que sur certains sujets, comme la réforme des retraites, on est totalement inaudible par les Français parce que tout simplement, on ne peut pas avoir un projet populaire en disant « oui, nous allons décaler l'âge de la retraite à 65 ans ». Ça, les Français qui travaillent dur, de plus en plus dur d'ailleurs, ne peuvent pas l'admettre. Sur l'écologie, on n'a pas grand-chose. On est pro-nucléaire et c'est très bien, mais il n'y a pas de projet de rupture avec une société qui nous mène droit dans le mur d'un point de vue environnemental. Donc toutes ces choses-là, on le paye cash. Et donc il va falloir se réinventer et reparler aux Français d'une manière très différente si on veut réexister.
On a le sentiment, je ne dévoilerai pas votre âge, mais on a le sentiment qu'il y a aussi un regain de jeunesse chez LR. C'est un petit peu le cas dans beaucoup de partis politiques. Aujourd'hui, les jeunes s'emparent un petit peu de la politique et veulent parfois renverser la table, changer des choses. Alors, on ne va pas faire de jeunisme, hein, il ne s'agit pas de cela, bien entendu, mais est-ce que justement, ça peut amener un peu de sang neuf et puis de réflexion aussi pour aborder des sujets de société, par exemple, tout simplement, qui ne seraient pas abordés ou qui n'auraient pas été abordés dans l'usage habituel.
Alors, évidemment, c'est profitable d'avoir des générations qui se succèdent les unes aux autres. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, il ne faut pas faire de jeunisme. Bon, moi, des jeunes, notamment dans mon parti, qui à 25, 26, 27 ans se comportent comme des politicards de 60, j'en connais aussi. Hein, des jeunes qui sont, élevés dans le sérail, comme on dit, et qui sont très éloignés des préoccupations des Français, j'en connais aussi. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, ce que je trouve intéressant, particulièrement chez LR, c'est, je pense, le renouveau dans une partie de cette jeunesse LR du gaullisme, qui avait totalement disparu depuis des années. Là, c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus, on parle de plus en plus de gaullisme aux jeunes dans notre parti. On parle de souveraineté nationale. Les questions sociales ne sont plus un gros mot, ne sont plus un tabou. On n'est plus traité de socialiste dès qu'on a des discours qui divergent un peu avec Monsieur Rivers, par exemple. Donc voilà, il y a ce renouveau, oui, il existe, mais il ne faut pas l'idéaliser. Et surtout, alors il y a les idées, c'est très bien, mais maintenant il faut se mettre au travail. Notre génération doit se mettre au travail sérieusement.
Justement, le gaullisme, vous avez lâché le mot et il est important, Quentin Lefebvre. Est-ce que aujourd'hui, LR va devoir, pour exister à nouveau, pour reprendre sa place, j'allais dire redorer son blason, si vous me permettez l'expression un peu triviale, revenir à ses valeurs fondamentales du gaullisme qu'elle n'aurait finalement pas dû abandonner?
Mais c'est évident que quand le général de Gaulle prend le pouvoir, il a cette phrase, il dit « Entre nous et les communistes, il n'y a rien ». Ça veut dire que pour être un mouvement populaire à droite en France, on se doit d'être gaulliste. Le libéralisme, le centrisme, l'européisme, ça ne fonctionne pas chez les classes populaires. Ça fonctionne chez les élites, on le voit. Sur BFM, ils sont très contents d'avoir des gens comme ça. Mais chez les Français, sur le long terme, ça ne marche pas. Et là, on a une majorité présidentielle qui gouverne contre le peuple, comme Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac l'avaient fait avant. Donc, quand on est de droite et qu'on abandonne le gaullisme, on ne peut pas, sur le long terme, pas gouverner, mais bien gouverner. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut revenir, effectivement, à des valeurs sociales, de souveraineté, qu'il faut parler de culture française, pas de culture européenne ou américaine, de culture française, et qu'il ne faut pas hésiter à renverser la table sur un certain nombre de sujets.
Ça veut dire aussi avoir une ligne de conduite différente, par exemple, du Rassemblement national. Souvent, on dit « Oh, LR, le Rassemblement national, finalement, ils vont se fondre entre eux, etc. » Ça fera une droite importante. Et pourtant, ce n'est pas le cas lorsqu'on vous entend. On reste sur une droite gaulliste, là.
Oui. Après, la question, l'éléphant dans la pièce, un peu, c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national ne se rapproche pas du gaullisme sur certains points.
On a entendu Mme Le Pen souvent citer De Gaulle, et Dieu sait si ce parti était très éloigné dans sa fondation même des idées du général De Gaulle. Mais on entend effectivement beaucoup de cadres du parti du Rassemblement national citer De Gaulle aujourd'hui. Est-ce que ça vous irrite d'ailleurs ou est-ce que vous dites finalement De Gaulle appartient à tout le monde, à l'histoire?
Alors, De Gaulle n'appartient pas à tout le monde. Hein, quand je vois des libéraux se l'approprier, j'ai toujours un petit pincement au cœur.
Ceci dit, le général de Gaulle avait dit tôt ou tard, tout le monde sera gaulliste.
c'est le souci des grands hommes. C'est qu'il devient difficile de se dire gaulliste parce que tout le monde le fait et que des fois, on se dit « Mais mince, vous ne l'êtes pas. Arrêtez de me voler mon rôle. Mais pour le Rassemblement National, bon, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire du Front National qui est un parti... essentiellement anti-gaulliste à ses débuts. Maintenant, je n'en veux pas à Marine Le Pen, à Jean-Philippe Tanguy, par exemple, à Jordan Bardella, de se dire gaulliste, parce que nous, chez LR, nous avons abandonné le gaullisme. Et on a des gens qui utilisent ce mot à tort et à travers. Enfin, et même à République En Marche, Jean Castex qui dit gaulliste social, moi, ça me fait doucement rigoler. Et on en a vu chez les Républicains se dire gaulliste, Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle a de gaulliste, soyons sérieux. À partir de là, le Rassemblement National, oui, essaye de changer son histoire, essaye de s'inscrire dans une nouvelle filiation. L'histoire restera l'histoire. Par contre, d'un point de vue programmatique, oui, on retrouve des idées gaullistes. Bon, qui ne sont pas parfaites, hein, j'irais pas dire que le programme du Rassemblement National est parfait, loin de là, mais on retrouve effectivement des idées gaullistes qu'on ne retrouve pas ailleurs, pas chez les Républicains et pas chez Éric Zemmour, contrairement à ce que lui-même disait.
Alors justement, il y a une ligne rouge à pas franchir, la ligne Zemmour par exemple à pas franchir, parce qu'on a vu quand même des gens de LR quitter LR pour aller vers Éric Zemmour, on en a vu aussi quitter LR pour aller vers Madame Le Pen en son temps, Monsieur Bardella aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur à un moment ou à un autre que vous soyez un peu siphonné, si j'ose dire, par ces partis qui sont parfois... Ben voilà, plus à l'extrême que LR.
Déjà, alors, autant effectivement Reconquête, on peut parler d'un parti extrémiste, autant le qualifier extrême pour le Rassemblement National, j'ai toujours un peu de mal à l'utiliser.
Voilà, c'est le terme générique.
Oui,
hein, voilà.
Ouais, soyons génériques. Moi, j'ai pas peur d'être siphonné. Si on est siphonné, c'est qu'on a échoué. C'est qu'on a échoué à parler aux Français. C'est qu'on a échoué à parler des vrais sujets qui intéressent les Français. Si effectivement, durant cette crise énergétique... on ne propose pas de solution aux Français, on sera siphonné. Si on continue à voter de concert avec la majorité des lois qui vont contre l'intérêt national, oui, on sera siphonné. Donc moi, j'en ai marre de cette droite qui ne pense qu'à reconquérir le pouvoir, mais qui ne sait pas quoi en faire.
Oui, parce que quand la droite est au pouvoir, alors, bon, elle est au Sénat. Aujourd'hui, la droite, elle est majoritaire au Sénat, mais on a le sentiment que c'est un peu la patate chaude. C'est bon, voilà, on est là, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi, voilà.
Bah, c'est souvent ça. C'est souvent ça, malheureusement. Et donc, voilà. Pour se faire siphonner, ce sera avant tout notre faute. Et bon, bah, l'exemple du Sénat, pendant ces 5 ans de premier mandat Macron, quand est-ce que le Sénat a réellement servi d'opposition à la Macronie? Jamais, parce qu'au final, dans la majorité de droite au Sénat, il y a énormément de centristes. Il y a énormément de LR qui sont en réalité... proche du centrisme. Et donc les gaullistes au Sénat, bon, bah, il faut avoir de sacrées jumelles pour les trouver. Donc évidemment, avoir le Sénat ne suffira pas, et notre groupe à l'Assemblée nationale ne suffira pas pour peser, si jamais tous les députés qu'on a ne font pas un inventaire de ce qu'a été la droite pour se dire « voilà telle position qu'on doit avoir, on doit être une opposition franche à Emmanuel Macron et ne plus être un marchepied de la majorité ».
Voilà, le fameux en même temps qui pourrait plaire d'ailleurs au président de la République, ce fameux en même temps. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, après ces élections, que ce soit M. Retailleau, M. Ciotti, il va falloir faire un inventaire, reposer les grandes fondations de LR, de la droite, là aussi peut-être revenir à ces grandes idées gaullistes-gaulliennes, allais-je presque dire, est-ce que ça va être nécessaire sous peine, voire disparaître ou s'étioler le parti?
Ah mais, de toute façon, la question de la disparition du parti, elle se pose de façon très sérieuse. Actuellement, on a un parti qui soit se réinvente complètement et réussit à faire son inventaire et à redevenir parti gaulliste. J'ai pas l'impression que ça en prenne la direction, mais
vous êtes pessimiste plutôt?
Je suis... Bah, quand on a un second tour entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti et qu'on est gaulliste, ça, voilà, ça mène pas forcément vers l'optimisme. Soit on se fond dans une majorité présidentielle et on devient un marchepied de la majorité. Dans ce cas, ce sera sans moi. Soit il y a des alliances avec le Rassemblement National, mais ça ne semble pas être la volonté de la plupart de nos adhérents, ou soit tout simplement, ce qui est le scénario le plus probable, on va continuer à perdre les élections de plus en plus, conserver une région par-ci par-là, une municipalité par-ci par-là, et devenir le parti radical de gauche ou l'UDI, mais plus, un peu plus à droite. Ça, c'est un destin qui est très possible, un parti de notable, de cadre, si on ne se réinvente pas ou si on ne fait pas d'alliance. Moi, je suis pour qu'on se réinvente. On a les armes pour le faire. On a des gens qui pensent, comme Julien Aubert, avec Oser la France, qui savent ce que c'est le gaullisme, qui savent mettre les idées gaulliennes sur la table, qui savent parler d'écologie, qui savent parler de pouvoir d'achat, qui savent parler d'énergie, qui savent parler de souveraineté. Maintenant, il faut le faire pour de vrai et dans les actes et pas seulement dans les mots. Parce qu'Éric Ciotti parle de souveraineté parfois, je ne suis pas sûr qu'il sache ce que ça veut vraiment dire.
Voilà, on a eu beaucoup de paroles finalement, si je vous entends bien, Quentin Lefebvre, on a eu beaucoup de paroles, mais les actes n'ont pas suivi, c'est un petit peu ce que reprochent les Français, d'ailleurs, pas seulement à LR, mais à tous les partis politiques, on le voit, y compris à la majorité présidentielle aujourd'hui, bien que le président ait été élu, mais avec une majorité relative. Est-ce qu'aujourd'hui les gens, alors quand je dis les gens, qu'ils soient des villes ou des campagnes, on l'entend beaucoup dans nos campagnes, en ont finalement marre de la politique, parce qu'on va voir qui sont députés, qui sont conseiller départemental, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de discours, mais que c'est très éloigné du terrain. Alors, il ne s'agit pas de juger en bloc, hein, on est bien d'accord, mais que c'est très éloigné du terrain, et la droite a sans doute pâti de ce phénomène également.
Alors, la droite en pâtit évidemment, mais ce phénomène de désintérêt, non pas de la politique, mais de désintérêt pour les urnes, il s'explique de façon totalement rationnelle. D'abord, on a une classe politique qui, dans sa majorité, en plus d'être malhonnête et incompétente, ça c'est Emmanuel Todt qui le dit, on a des élites qui sont bêtes. Ça ne pousse pas les Français à voter. On a une partie de la classe médiatique qui informe très mal. Je vais prendre un exemple tout simple, mais quand on a, durant toute la campagne du premier tour, tous les médias mainstream qui disent Marine Le Pen s'est adoucie, elle fait une bonne campagne, le parti a changé, et dès qu'on arrive dans l'entre-deux-tours, c'est le fascisme, c'est les heures les plus sombres, bah, les Français, ça leur plaît pas. Donc, soit ils vont utiliser des canaux de réinformation, notamment sur Internet, avec les avantages et les inconvénients de ça.
Le danger des fake news.
Le danger des fake news, du complotisme. Ou soit ils vont se désintéresser des urnes. Et le troisième facteur, qui est peut-être pour moi le plus important, c'est que le vote ne vaut presque plus rien. Parce que pourquoi voter pour les élections présidentielles et législatives quand toutes les décisions sont prises à Bruxelles ? Pourquoi voter aux élections européennes quand la délégation française, notamment de LR, qui est un parti issu du gaullisme, va siéger au PPE, parti ouvertement fédéraliste, avec les Allemands de la CDU ? Pourquoi voter aux départementales et régionales avec ce millefeuille territorial qui fait que les Français ne comprennent rien ? Pourquoi voter au municipal quand c'est les intercos, les grandes métropoles qui ont les choix politiques ? Donc le vote des Français ne vaut plus grand-chose. Et donc se réfugier dans l'abstention, c'est quelque chose de rationnel. Et je comprends les Français. Je le déplore, mais je comprends totalement les Français qui se réfugient dans l'abstention.
Le général de Gaulle, on l'avait appelé monsieur référendum, hein, il aimait bien faire des référendums. D'ailleurs, il est parti sur un référendum en 1969 en disant, voilà, si je ne suis pas, enfin, si on ne suit pas mes idées, si je suis battu, je m'en vais. Il est parti. Aujourd'hui, on ne prend pas assez l'outil du référendum au sérieux sur de grandes questions politiques, sur de grandes questions sociétales, sur de grandes questions qui impliquent aussi l'avenir des Français. On parle d'énergie, pourquoi pas un référendum sur comment aujourd'hui avoir une idée à long terme de l'aménagement énergétique de la France, qu'il soit d'ailleurs nucléaire ou pas. Est-ce que aujourd'hui le référendum peut être aussi un outil démocratique et qu'on pourrait peut-être utiliser un peu plus ?
Alors le référendum est effectivement l'outil démocratique par excellence pour trancher des grandes questions de société.
Voilà, on est bien d'accord, effectivement.
Encore faut-il qu'il soit respecté. Ah, ça, c'est toujours péché originel.
S'il y a un vote, il faut quand même en tenir compte. On revient à 2005, effectivement.
Voilà. Mais pour moi, un président qui adopte une posture gaulliste se doit de convoquer le référendum. Et se doit d'y réfléchir sérieusement. Quand Emmanuel Macron, pendant la campagne d'entre-deux-tours, a évoqué le référendum sur les retraites, tout le monde a rigolé. Tout le monde savait que c'était du pipeau. Donc voilà, c'est pas Emmanuel Macron qui va convoquer un référendum, sauf s'il est sûr de le gagner, comme sur l'écologie, quelque chose pour dire que l'écologie c'est important quand même. Bon, on fait pas un référendum sur ça sérieusement. Malheureusement, on a des politiques qui ont peur du référendum parce qu'ils gouvernent contre le peuple depuis des décennies.
Ils ont peur de perdre le pouvoir finalement.
Après, le problème, c'est que bon, Jacques Chirac a perdu, il a quand même pas quitté le pouvoir. Bon, donc est-ce qu'ils ont peur de ça? Mais oui, ils ont. En tout cas, ils savent que leur idéologie n'est plus majoritaire dans le pays et que s'il y a un référendum, ils vont le perdre sur un sujet qui est important, sur un sujet de rupture. Et donc, comme le référendum est obligatoire, bah, ils ne le convoquent pas. Et c'est vraiment dommage pour notre démocratie.
On parlait du gaullisme, de ce retour en grâce du gaullisme avec les jeunes générations. Là encore, point de jeunisme. Hein, le général de Gaulle est mort il y a plus de 50 ans maintenant. Mais justement, est-ce que c'est peut-être la bouée, pardonnez-moi du terme, mais la bouée de sauvetage de LR, revenir à des fondamentaux gaullistes avec une jeune génération qui ne pense forcément pas comme les aînés. Là encore, sans faire de jeunisme.
Bah, la bouée de sauvetage, le terme de sauvetage est effectivement adapté, parce qu'effectivement, si on ne redevient pas réellement gaulliste, donc si on ne remet pas en cause 40 ans de politique, on va disparaître, comme j'ai dit. Donc ça, c'est clair qu'on va disparaître.
Comment adapter finalement le gaullisme au XXIe siècle?
Je pense que le gaullisme, c'est quand même quelque chose d'intemporel. C'est l'héritier du bonapartisme avant lui. Il y a toute une histoire du bonapartisme et du gaullisme en France. À l'heure des grands empires, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne.
Avec une guerre en plus.
Avec une guerre très proche de chez nous. C'est penser une diplomatie originale, une diplomatie qui soit celle de la France et pas celle de l'OTAN. Et donc ça, c'est une question qui est totalement actuelle. C'est la souveraineté énergétique. Les grands choix sur le nucléaire notamment, c'est le général de Gaulle, c'est Monsieur Messmer.
Vous avez pensé, le plan Messmer était pensé à 50 ans, hein,
exactement.
Si mes souvenirs sont bons.
Et donc ça, et je pense que les Français veulent qu'on pense à 50 ans. Là, les majorités hollandistes et macronistes ont pensé à leur réélection. Sur la question de l'énergie, ce n'est pas possible.
Est-ce que ça remet en cause, pardonnez-moi, je vous interromps, mais est-ce que ça remet en cause aussi la durée des mandats des présidents de la République? Aujourd'hui, on est au quinquennat. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir finalement au septennat quelque part et décaler les élections législatives? On entend beaucoup cette petite musique qui revient dans la réflexion politique.
Cette petite musique, je la reprendrai également parce que pour avoir le temps plus long du septennat, et puis effectivement, pour ne plus avoir l'alignement du calendrier des législatives sur les présidentielles, qui a donné des majorités, des fois, qui n'auraient pas été voulues par les Français en temps normal. Donc là-dessus, évidemment que oui, le septennat, il faut y revenir. Le passage au quinquennat a été une mesure un peu populo prise par Jacques Chirac, mais bon, qui était accepté à l'époque, mais très vite, on a vu les effets dévastateurs que ça a eu sur notre démocratie. Et oui, pour une vision à long terme, il faut effectivement le retour du septennat.
Donc, vision à long terme, ça veut dire vision diplomatique, hein, vous le disiez. La France, aujourd'hui, elle fait sa diplomatie avec l'Europe. Quoique, on a quand même une forme de diplomatie française, ne serait-ce qu'avec le président de la République, qui entretient le contact, par exemple, avec Vladimir Poutine. Ça lui est reproché, d'ailleurs. Est-ce que le général de Gaulle aurait décroché son téléphone, aurait dit « Allô, Poutine ?»
Ah bah, je pense que le général de Gaulle... n'hésitez pas à faire des visites en URSS dans les pays dans les républiques populaires. On négocie pas avec ses amis, on négocie avec des gens avec qui on s'entend mal. C'est normal. Donc là-dessus, je ne critiquais pas la politique du président Macron pour cela, mais il n'a pas les moyens de la mettre en œuvre. La plupart du temps, Vladimir Poutine lui rionnait en lui disant que de toute façon, la France est dans le commandement intégré de l'OTAN.
Il ne fallait pas revenir. Ça a été une erreur de Nicolas Sarkozy.
Ah oui, ça a été une erreur.
De nous réintégrer dans le commandement. Alors, on était dans l'OTAN, il faut bien préciser.
Oui, bien sûr.
Mais dans le commandement intégré.
Oui, ça a été un abandon de souveraineté qui témoigne de l'idéologie atlantiste néoconservatrice de Nicolas Sarkozy. Maintenant, sur la diplomatie, quand je dis qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens de notre souveraineté. Mais en plus, quand on voit qu'on a supprimé le corps diplomatique, un corps d'excellence français qui nous permettait d'avoir le deuxième réseau diplomatique le plus puissant du monde, qui nous permettait, rien qu'en termes culturels, parce que la politique culturelle est voulue par le général de Gaulle, des alliances françaises dans des vingtaines de villes, dans plein de pays, enfin dans une vingtaine de villes par pays, c'est quand même quelque chose qui est absolument colossal, et qu'on détricote, au nom de quoi ? J'ai du mal. Pour une diplomatie européenne, peut-être, c'est l'argument qui est avancé. On n'a pas besoin de diplomate français si un diplomate allemand qui est là. Bon, c'est pas ça la grandeur de la France.
C'est aussi ce poste au Conseil de sécurité, revendiqué depuis pas mal d'années par l'Allemagne. On dit que la France pourrait céder.
Ça serait une catastrophe. Enfin, je veux dire, bon, les Allemands n'ont pas vocation à entrer au Conseil de sécurité. Je dirais même que les Allemands n'ont pas vocation à se réarmer.
Ils le font actuellement avec la guerre en Ukraine.
Oui, et ben, je trouve ça très dangereux sur le long terme.
On va devoir s'arrêter là parce que l'heure tourne. Un dernier mot, et il est important. Vous êtes optimiste quand même sur un sursaut de LR ?
Non, je suis optimiste sur l'avenir de mon pays, moins sur celui de mon parti.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Quentin Lefebvre, responsable adjoint des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine, qui est venu au micro de la matinale avec une meilleure voix que la mienne ce matin. Première radio, vous voyez, ça s'est très bien passé. Hein, si, voilà. Oui. Et vous reviendrez évidemment.
Très vite.
On continuera à prendre le pouls de LR, évidemment, comme on le fait régulièrement, surtout les partis politiques et toutes les sensibilités politiques qui se succèdent au micro de la matinale. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct, d'être venu de Rennes. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci vous de même.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.